Ce matin, au début de ce mois de juillet, au commencement de ces semaines où nous allons vivre, pour beaucoup d'entre nous, avec les vacances, une vie d'église en pointillé, j'aimerais m'arrêter avec vous sur une prière de David, dont les requêtes pourraient, si nous les faisons nôtres, nous accompagner tout au long de cet été. Cette prière de David se trouve au psaume 143 et elle se découpe naturellement en deux parties. Deux parties séparées dans le texte par une pause. Vous savez, ces fameuses pauses qu'on trouve dans les psaumes. Ces pauses qui, c'est l'hypothèse la plus probable, étaient des pauses musicales, on n'est pas tout à fait sûr. Des pauses pour laisser la place aux instruments de musique. Des pauses pour donner le temps de méditer ce qui venait d'être chanté. Et c'est ainsi, en marquant la pause, que nous allons faire la lecture de ce psaume ce matin. Je vais lire dans la traduction de la Nouvelle Bible Seconde. Psaume de David. Seigneur, entends ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta constance, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec moi, ton serviteur, car aucun vivant ne peut être juste devant toi. L'ennemi me poursuit, il écrase ma vie à terre. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme les gens d'autrefois qui sont morts. Mon esprit défaille, mon cœur est dévasté au-dedans de moi. Je me souviens des jours de jadis, je redis toute ton action, je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je suis devant toi comme une terre épuisée. Réponds-moi vite, Seigneur, mon esprit s'épuise. Ne te détourne pas de moi. Je serai semblable à ceux qui descendent dans le gouffre. Fais-moi entendre dès le matin ta fidélité, car j'ai mis ma confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je m'élève vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. Je me cache auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton souffle bienfaisant me conduise sur une terre aplanie. À cause de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. Dans ta justice, retire-moi de la détresse. Dans ta fidélité, tu réduiras au silence mes ennemis, tu feras disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. Dans la première partie du psaume, qui va jusqu'au verset 6, nous comprenons bien la situation du psalmiste, la situation dans laquelle se trouve le roi David. Quelle est-elle ? En fait, elle n'est pas très brillante. On pourrait dire que David est au fond du trou. Il va tellement mal que sa prière est une supplication, des supplications. Verset 1, « Seigneur, entends ma prière, prête l'oreille à mes supplications. » Mais que se passe-t-il donc dans la vie de David ? Premièrement, David est en proie avec sa conscience. Il se sait pécheur. Il sait qu'aucun homme n'est juste de manière absolue devant Dieu. Il sait que lui n'est pas juste devant Dieu, même s'il est son serviteur, et il le redit, il le dit à deux reprises. Mais David sait aussi que Dieu pardonne, qu'il pardonne ceux qui se confient en lui. Il sait que Dieu fait grâce au pécheur qui se repent, qui s'humilie. La grâce de Dieu, c'est bien ce que David désire et demande au verset 2. « N'entre pas en jugement avec moi, ton serviteur, car aucun vivant ne peut être juste devant toi. » Oui, David est pleinement conscient de son péché, conscient qu'il est un obstacle entre lui et Dieu, conscient que seule la grâce de Dieu, jamais les mérites, peut résoudre le problème du péché qui condamne l'être humain devant Dieu. Alors oui, David compte sur la grâce de Dieu. Il compte sur le Seigneur. Il compte sur le fait que Dieu va prêter attention à lui, qu'il va prêter attention à ses supplications. Mais pourquoi Dieu le ferait-il ? Sur quelle base le fera-t-il ? La réponse se trouve à la fin du verset 1. « Seigneur, entends ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta constance, dans ta justice. » Oui, c'est parce que Dieu est constant et juste qu'il peut faire grâce, qu'il va répondre à David. La constance de Dieu, c'est sa fidélité. Ce sont les engagements qu'il a pris envers son peuple en faisant alliance avec lui, engagements qu'il tient parce qu'il est fidèle. Notons d'ailleurs que c'est bien le nom de Dieu en lien avec l'alliance que David utilise à 4 reprises dans ce psaume. Yahvé, traduit en français par l'Éternel ou le Seigneur. Oui, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple qui est en toile de fond de ce psaume. C'est parce que Dieu a fait alliance avec son peuple que David peut s'appuyer sur sa fidélité, sur sa constance. Sa constance, mais aussi sa justice. Sa justice qui correspond à son intervention contre ceux qui pratiquent le mal, contre ceux qui oppriment injustement le psalmiste. Oui, c'est en comptant sur la fidélité de Dieu et sur sa justice que David se tourne vers Dieu, qu'il s'attend à lui, qu'il compte sur sa grâce, qu'il compte sur son écoute, qu'il compte sur sa délivrance. Que se passe-t-il dans la vie de David ? Deuxièmement, il est en proie à un ennemi puissant, verset 3. Un ennemi qui le poursuit, un ennemi qui l'écrase à terre, un ennemi qui le fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts, un ennemi qui en veut à sa vie. Quel est cet ennemi ? Le texte ne le dit pas. Si certains pensent qu'il s'agit de Saül, d'autres sur la base du titre de ce psaume dans la Septante, c'est-à-dire dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, pensent qu'il s'agit d'Absalom, son fils. En effet, dans la Septante, le titre de ce psaume est le suivant « Quand son fils Absalom le poursuivait ». Absalom, le fils de David qui s'est révolté contre lui et qui a voulu prendre la royauté de son père. Si l'ennemi de ce psaume est bien son fils Absalom, alors on comprend d'autant mieux la profonde détresse qui habite David. On comprend d'autant mieux que sa conscience soit chargée, puisque souvenons-nous, la révolte d'Absalom est une conséquence directe de son adultère avec Bathsheba. On comprend d'autant mieux à cause des liens du sang que David soit dans un profond désespoir. Et c'est le cas. Verset 4, son cœur défaille, son cœur est dévasté au-dedans de lui. Verset 6, il est comme une terre épuisée. Oui, David est dans une profonde détresse. Une profonde détresse que nous pouvons nous aussi parfois connaître, subir. Comment David va-t-il s'en sortir? Comment pouvons-nous nous en sortir? Bien sûr, je ne parle pas ici de situation qui demande une attention médicale. Le chemin proposé dans ce psaume est celui de la prière. C'est celui qu'emprunte David et c'est celui aussi que nous pouvons emprunter, nous tourner vers le Seigneur, compter sur lui, lui ouvrir notre cœur, le supplier d'agir dans notre vie. Si le chemin que David emprunte est celui de la prière, c'est aussi le chemin du souvenir. Verset 5, David se souvient des jours de jadis, des jours d'autrefois. David se souvient de ce que Dieu a fait dans le passé. C'est dans le passé, dans la fidélité passée de Dieu, que David va aller puiser du réconfort, puiser des forces pour faire face à son présent difficile. Ce chemin du souvenir est aussi un chemin qui nous est accessible. À ce sujet, Charles Spurgeon, dans son commentaire de ce psaume, écrit ceci. « L'Éternel a délivré son peuple dans les siècles passés. Pourquoi ne le ferait-il pas à nouveau ? Nous-mêmes, nous avons un riche passé auquel nous pouvons regarder. » Nous avons des souvenirs ensoleillés, des souvenirs sacrés, des souvenirs satisfaisants, et ils sont comme des fleurs pour les abeilles de la foi qui peuvent les visiter pour en faire du miel, pour s'en nourrir aujourd'hui. C'est poétique, mais c'est beau. On a besoin de le relire deux, trois fois, puis après on comprend bien de quoi il retourne. Ces souvenirs sont comme des fleurs vers lesquelles vont les abeilles de notre foi pour faire du miel, pour que nous nous en nourrissions aujourd'hui. Oui, il est bon de se souvenir des bienfaits passés de Dieu dans notre vie, comme le dit le cantique, il est bon de compter les bienfaits de Dieu. Voilà donc la situation du psalmiste, pas très brillante. Mais David va faire le bon choix. Il va faire le choix de la prière. Il va se tourner vers Dieu et il va lui présenter ses requêtes. Des requêtes que nous allons considérer maintenant et des requêtes que nous pouvons faire nôtres pour aujourd'hui, pour demain et pour toutes les semaines de cet été qui s'ouvre devant nous. Peut-être pensez-vous, consciemment ou inconsciemment, qu'il ne pouvait pas en être autrement. C'est le roi David, après tout. C'est normal qu'il se tourne vers Dieu. On n'en attend pas moins de lui. C'est normal que tout finisse par s'arranger pour David. J'aimerais suggérer que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et que pour David, comme pour chacun de nous, ce choix n'est jamais facile. Pourquoi ? Parce que par notre nature pécheresse, nous avons tendance à vouloir nous passer de Dieu. Nous avons tendance à vouloir compter sur nos forces avant de compter sur le Seigneur. Nous avons tendance à considérer Dieu comme une roue de secours dans notre vie et pas assez souvent comme le volant de notre vie. La première requête, c'est celle de la communion avec Dieu, celle de la présence de Dieu. Avant même de demander la délivrance ou autre chose, ce qui habite David, c'est le désir d'être en communion avec son Dieu. Verset 7, « Ne te détourne pas de moi, dit-il. Littéralement, ne me cache pas ta face. » Verset 5, c'est pas à l'écran, mais « Je tends les mains vers toi. » Verset 8, « Je m'élève vers toi. » Verset 9, « Je me cache auprès de toi. » Verset 10, « Tu es mon Dieu. » Oui, David désire avant toute autre chose d'être en communion avec Dieu, avec son Dieu. Parfois, à cause de notre péché, nous pouvons penser, nous pouvons craindre, comme David ici, que Dieu pourrait se détourner de nous, qu'il pourrait nous cacher sa face, qu'il pourrait nous abandonner. Mais penser cela, c'est croire que Dieu attend de nous la perfection. C'est croire qu'il ne peut donc être que fâché avec nous quand nous péchons. C'est vrai que le péché de l'homme suscite la colère de Dieu, mais si nous sommes en Jésus-Christ par la foi, alors cette colère de Dieu que nous méritions à cause de nos fautes, cette colère a été détournée sur le Christ. De telle manière, dit l'apôtre Paul aux Romains, qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de craindre que Dieu se détourne de nous, car rien ne peut nous séparer de son amour si nous sommes en Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de minimiser le péché dans notre vie, le péché que nous devons toujours rejeter, toujours combattre, toujours résister et jamais accepter. Mais il s'agit d'être convaincu que Dieu n'est jamais loin et qu'il se laisse toujours trouver par celle ou celui qui le cherche sincèrement et que nous pouvons toujours venir à lui, quoi que nous ayons fait, car s'il désire nous exaucer selon sa volonté. Il désire, avant toute autre chose, être en communion avec nous. Chers amis, y a-t-il ce désir de communion avec Dieu dans notre cœur? Si nous sommes honnêtes, alors sans doute devons-nous dire que ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi il est parfois nécessaire, avant même d'exposer nos requêtes à Dieu, avant même de lui dire notre désir de communion avec lui, de lui demander de mettre sa soif de lui dans notre cœur. Et voilà certainement avec le désir de communion une belle requête pour chacun de nous tout au long de cet été. Ô Dieu, crée en moi la soif de toi, afin que je désire toujours plus ta communion, ta présence dans ma vie. La deuxième requête que nous trouvons dans ce psaume, c'est celle du guidage de Dieu, celle de sa conduite, celle du discernement de sa volonté. Verset 8, « Fais-moi entendre dès le matin ta fidélité, car j'ai mis ma confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je m'élève vers toi. » Après la restauration de la communion et avant la délivrance, ce que David désire plus que tout, c'est d'être conduit par Dieu. C'est d'entendre sa fidélité. C'est de connaître le chemin où il doit marcher. C'est au verset 10 d'apprendre à faire sa volonté. C'est d'être conduit par Dieu sur une terre aplanie. Et je constate tout à nouveau que David avait compris l'essentiel. Il avait vraiment compris l'essentiel. Il avait compris qu'avant la délivrance, qui va être la troisième requête, ce qui prime avant tout, c'est la relation avec Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. C'est de faire sa volonté. Voilà où est l'essentiel. En effet, Dieu désire bien évidemment répondre à nos prières selon sa volonté, mais il désire avant toute autre chose notre communion, notre obéissance. Il désire nous conduire par sa volonté et dans sa volonté. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que c'est pour notre bien. Dieu aime nous bénir en répondant à nos requêtes selon sa volonté. Il aime le faire. Mais notre bien, c'est aussi, surtout et avant tout, la présence de Dieu dans notre vie. Et notre vie vécue selon sa volonté. Chers amis, y a-t-il ce désir d'obéissance à Dieu dans notre cœur? Alors faisons nôtre cette requête du psalmiste, une belle requête pour notre été. Fais-moi entendre dès le matin ta fidélité, car j'ai mis ma confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je m'élève vers toi. Et puis si ce désir ne se trouve pas dans notre cœur, ou peut-être pas assez, alors nous pouvons demander à Dieu de le faire naître, de le faire grandir dans notre cœur. Nous pouvons, en utilisant les paroles de l'apôtre Paul aux Philippiens, lui demander d'opérer en nous le vouloir et le faire, afin que nous entrions dans ses projets pour nous et dans les bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous. La troisième requête, on y arrive enfin, c'est la délivrance. C'est la vie. Verset 9, délivre-moi de mes ennemis. Verset 11, à cause de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. Dans ta justice, retire-moi de la détresse. C'est l'adversité dans laquelle se trouve David qui l'a poussé à se tourner vers Dieu, qui l'a poussé à lui faire connaître ses besoins. Chers amis, c'est encore possible et c'est toujours d'actualité pour nous. Dieu nous invite encore aujourd'hui à lui faire connaître nos besoins. Il y a des versets qui sont tellement connus qu'ils en deviennent presque banals. Il ne faudrait pas que ce soit le cas. Et je pense ici à ce verset tellement connu, mais tellement essentiel. de l'Épître aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication. Tiens, la supplication, elle est de nouveau là. Et oui, combien de fois nous supplions tellement nous sommes accablés. Et avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Faites connaître à Dieu vos demandes. C'est tellement simple et tellement difficile à la fois. Tellement simple et tellement essentiel. Faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Avant même d'exaucer notre prière, si elle est dans sa volonté, bien sûr, Dieu va bénir la confiance que nous mettons en lui en nous accordant sa paix. C'est extraordinaire. Avant même de répondre, nous avons déjà la garantie que sa paix nous est acquise. Une paix qui ne s'explique pas, une paix que nous pouvons même connaître dans les difficultés. David a-t-il été délivré ? Le psaume ne le dit pas. Par contre, ce que le psaume dit, c'est que David avait l'assurance que Dieu allait agir pour lui. Verset 12, « Dans ta fidélité, tu réduiras au silence mes ennemis et tu feras disparaître tous mes adversaires. » Et nous, est-ce que nous avons des ennemis ? Parce qu'on se dit, comment est-ce qu'on transpose un psaume écrit il y a 3500 ans dans le contexte de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance ? Comment est-ce que tout ça, ça se met en œuvre dans notre vie aujourd'hui, après Jésus-Christ et au XXIe siècle ? Avons-nous des ennemis ? Parfois, peut-être. En tout cas, il me semble vraiment hasardeux de comparer la situation de David, le roi du peuple d'Israël de l'Ancienne Alliance, avec notre situation de chrétien après Jésus-Christ. Le copier-coller sans autre me paraît très, très hasardeux. Par contre, il y a un ennemi qui oppresse toujours les enfants de Dieu, qui rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cet ennemi, c'est le diable que Jésus a vaincu à la croix. Mais pour l'heure, bien qu'il soit vaincu, il est encore en capacité de nuire. Il est encore en capacité de nuire jusqu'à ce que le Seigneur revienne et jusqu'à ce que le Seigneur le juge pour l'éternité, en le jetant dans l'étang de feu. Alors pour l'heure, nous pouvons et nous devons demander à Dieu de nous protéger, de nous délivrer de cet ennemi-là. Chers amis, y a-t-il dans notre cœur le désir de résister au diable, de résister à tous ses pièges et à toutes ses tentations, de résister au péché qui nous enveloppe si facilement? Voilà une belle requête à saisir au début de cet été. Ô Dieu, mets en moi le dégoût du péché et accorde-moi de résister à tout ce qui veut me détourner de toi. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le à cause de ton nom. Fais-le à cause de ta fidélité, fais-le à cause de ta justice, fais-le à cause de Jésus-Christ, parce que tu es notre Dieu, parce que nous sommes tes serviteurs, tes enfants. Puisse ces belles requêtes nous accompagner chacun tout au long de cet été. Un été que je vous souhaite bienfaisant, rafraîchissant, sous le regard aimant de notre Dieu, qui nous aime d'un amour éternel. Et comme cela nous a été rappelé ce matin, rien n'est plus grand que son amour. Amen.